RFI, grand reportage.
Les Noirs, trois fois plus affectés par la pandémie due au coronavirus que les Blancs et avec deux fois plus de chances d'en mourir. C'est aux États-Unis que cela se passe. À l'origine de cet écart, les disparités raciales qui ravagent la société américaine, les Afro-Américains souffrent de manière disproportionnée de maladies chroniques qui les rendent plus vulnérables face au virus. Et ce sont eux aussi qui exercent des métiers plus exposés. Coronavirus, les Afro-Américains en première ligne, c'est un grand reportage d'Anne Corpet.
Quand la pandémie a commencé, ils n'avaient pas de gants, pas de masques, aucune procédure pour protéger les employés en première ligne. Donc elle est allée travailler, elle a fait de son mieux, mais il n'y avait aucune mesure de sécurité.
Nous rencontrons Zenobia Shepherd sur le parking d'une grande surface du comté de Prince George dans le Maryland. Elle évoque sa fille, Leilani Jordan, morte à l'âge de 27 ans, après avoir attrapé le coronavirus dans le supermarché où elle travaillait.
Leilani est tombée malade. Elle toussait, elle avait de la fièvre et elle est morte à l'hôpital, dans mes bras, aux urgences. Elle avait bon cœur. Elle était heureuse d'aider les clients âgés qui venaient au supermarché. Les caddies n'étaient pas nettoyés, les poignées des frigos n'étaient pas désinfectées. Mais elle aidait les clients à prendre ce dont ils avaient besoin ou les accompagnait même à la pharmacie, leur disait de s'asseoir pendant qu'elle allait elle-même chercher leurs médicaments.
Vous étiez au courant des risques ?
Oui, on était au courant des risques et plus personne n'allait travailler. Et elle me disait, maman, il faut que j'aille donner un coup de main.
À la mort de Leilani, la direction du supermarché a envoyé à sa mère un chèque de $20.63 en solde de tout compte, sans même l'accompagner d'une lettre de condoléance. Aucun responsable du magasin n'est venu à l'enterrement, mais la direction a pris des mesures pour protéger ses autres employés.
Leilani n'est pas morte en vain, mais elle est morte tragiquement. Ils auraient dû protéger les employés. Maintenant, ils le font. Depuis que l'histoire de Leilani est sortie, dans chaque supermarché, on voit les écrans, plexiglas, les masques, les gants, le désinfectant passé sur les comptoirs. Cela ne se produisait pas avant la mort de Leilani.
La mort de Leilani a suscité une vague d'émotion dans l'État et a contribué à faire bouger les autorités du Maryland pour qu'elles assurent la protection de ce comté peuplé majoritairement d'Afro-Américains. Les Blancs y sont une minorité. La sénatrice afro-américaine Joanne Benson a dû écrire au gouverneur républicain.
On a eu l'impression d'être négligé, de faire face à une certaine discrimination, pour être honnête avec vous. Quand on discutait avec les élus et les responsables du comté de Prince George, on voyait les chiffres des infections grimper et tout le monde se plaignait du manque de ressources pour faire face à ce problème. Dans le même temps, en discutant avec des responsables d'autres comtés dans l'État, on s'est aperçu qu'eux recevaient ce qu'ils réclamaient. Tandis que nous, quand on faisait appel au gouverneur, on n'aboutissait à rien. Donc, c'est ce qui nous a poussé à écrire une lettre avec des mots assez forts au gouverneur. Bien sûr, après cette lettre, nous avons reçu une réponse positive et merveilleuse, mais nous avons dû mettre une forte pression, non seulement les élus et moi, mais aussi les citoyens qui ont appelé le gouverneur pour lui dire « Écoutez, vous devez fournir au comté les moyens de lutter contre cette pandémie. » Les ressources allaient ailleurs et la priorité n'était pas le comté de Prince George.
Les tests de dépistage gratuits sont désormais accessibles un peu partout dans le comté. On y arrive en voiture, comme sur ce parking d'une église baptiste d'Hyattville. Retanol Begley dirige les opérations.
Bien qu'on n'en soit plus au pic de la crise au niveau de l'État, le comté de Prince George a toujours le plus haut taux de contamination du Maryland. Donc on reste vigilant, surtout dans cette partie du comté où il y a beaucoup de foyers où plusieurs familles cohabitent et où les gens sont dans l'incapacité de respecter les distances sociales. Donc, quand quelqu'un est testé positif, dans la plupart des cas, les autres membres de sa famille ont aussi été exposés.
Matt et Lilia sont venus se faire tester.
Je sais que le comté est l'un des plus affectés du pays et je l'ai expérimenté personnellement. Ma voisine, qui était une jeune quadragénaire, est une victime. Elle est morte le 1er mai, tuée par le Covid. Elle travaillait dans une maison de retraite, elle s'appelait Anissa Harrison. C'est très inquiétant de voir que quelqu'un que je connaissais a disparu. Donc je prends tout ça très au sérieux et je suis content que la ville procure ce service.
Je ne veux pas l'attraper, je ne veux pas être malade et je ne veux pas mourir. C'est inquiétant, c'est l'une des pires choses que j'ai vécues. C'est vraiment inquiétant, ça fait peur, vraiment peur.
Michael Cooper nous accueille à l'hôpital de Lanham où il dirige l'équipe d'infirmiers. Pour la première fois depuis des semaines, il souffle un peu mais reste sur ses gardes.
Aujourd'hui, c'est une bonne journée, car c'est la première fois que nous avons moins de 24 patients en soins intensifs, où nous avons un total de 24 lits. Depuis le début avril, nous étions toujours au-dessus et nous avions mis un autre étage à contribution. Ça a été un défi d'installer les appareils nécessaires, d'équiper d'autres lits pour les patients supplémentaires. Quelques membres du personnel ont été infectés, certains ont eu peur au début. On a dû recruter des infirmières pour faire face à la demande supplémentaire. Comme je l'ai dit, nous avons 24 lits en soins intensifs, mais nous avons eu jusqu'à 44 patients dans l'unité et nous sommes prêts pour une seconde vague si elle doit survenir. On a appris à se préparer, on a installé des tentes dehors, des bâtiments sont en cours de rénovation. On est prêt à accueillir de nouveaux patients si on le doit.
Au plus fort de la crise, le docteur Joseph Wright dirigeait le Capital Region Health, l'entité qui supervise 3 hôpitaux du comté.
Le comté de Prince George a été de loin le comté le plus affecté du Maryland. On a constaté que les patients étaient atteints plus gravement qu'ailleurs. 40% de ceux qui ont été admis à l'hôpital dans le comté sont passés par des services de réanimation. Le comté de Prince George est résidentiel. Beaucoup de travailleurs essentiels, d'employés fédéraux y habitent et allaient travailler tous les jours en utilisant les transports publics. En plus, il y a une large communauté de couleur avec une forte proportion de maladies chroniques dues aux inégalités dans la santé.
We could be down there?
Yeah, wonderful.
You ready? Okay.
Yeah. Stephen B. Thomas nous accueille dans son jardin, à l'arrière de sa maison. Il dirige le Maryland Center for Health Equity, le centre du Maryland pour l'équité dans la santé.
Over the past decade, we've been conducting research.
Au cours de la dernière décennie, on a fait des recherches sur les preuves des disparités raciales dans l'accès à la santé aux États-Unis, et en particulier ici où nous vivons, dans le comté de Prince George, dans le Maryland. Et on a montré que les maladies chroniques, des maladies qui peuvent être prévenues, comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques, certains cancers, impactaient de manière disproportionnée les Afro-Américains. Et dès qu'ils ont décrit les conditions de santé qui rendent le COVID-19 si dangereux, nous avons su que la communauté afro-américaine serait touchée de manière disproportionnée, en particulier en termes de mortalité.
Comment vous expliquez que les Afro-Américains souffrent plus de ces maladies chroniques qui les rendent plus vulnérables au
COVID-19?
Il y a une documentation scientifique croissante qui prouve que vivre dans une société où sévit le racisme suscite une forte dose de stress. Et ce stress, qui provoque des réactions biologiques, ne disparaît jamais. Même si vous êtes diplômé d'une université, même si vous avez du succès économique, si vous êtes noir aux États-Unis, vous portez le fardeau d'une histoire raciste. Cela pèse fortement sur vos organes et crée des maladies chroniques prématurées qui apparaissent bien plus tôt que chez les Blancs. Et mon équipe a démontré que de nombreux Afro-Américains manquent de confiance dans le système de santé. Et beaucoup trop peu d'Afro-Américains font de la médecine préventive. Cela signifie que pour beaucoup de Noirs américains, quand ils se présentent chez le docteur, c'est trop tard. C'est trop tard.
When they do show up to the doctor for help, it's too late. It's too late.
Ce manque de confiance, c'est parce qu'ils sont discriminés par les services de santé?
opened up our research office.
Nous avons envoyé nos chercheurs faire du porte-à-porte dans des immeubles à fort taux de pauvreté. Et on a appris que les gens ne faisaient pas confiance aux médecins à cause d'histoires entendues dans leur famille par le bouche à oreille. Qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens en blouse blanche à cause de ce qu'ils ont fait aux Afro-Américains à Tuskegee dans l'Alabama, où les services de santé américains ont observé l'évolution de la syphilis chez plus de 400 hommes noirs. Ils ne les ont pas soignés, ils les ont observés. De 1932 à 1972, pendant 40 ans. Et si Tuskegee est un exemple très connu, il y en a bien d'autres. Beaucoup des procédures utilisées en gynécologie aujourd'hui viennent de recherches faites sur des femmes esclaves, parfois sans anesthésie. Donc c'est inscrit dans la mémoire des communautés. Et je pense qu'on doit reconnaître que cette méfiance n'est pas irrationnelle. Cette méfiance est une protection.
Et je pense que nous devons reconnaître que la distrust n'est pas irrationnelle, c'est une protection.
Pour tenter de restaurer la confiance de sa communauté dans le corps médical, le professeur Stephen B. Thomas a lancé le programme HAIR. Il fait venir des médecins chez le coiffeur, le barbershop, un lieu de rencontre et d'échange dans la communauté afro-américaine. Fred Spear a accueilli l'expérience dans son salon de coiffure, mais à cause de l'épidémie, il reçoit désormais ses clients dans son garage qu'il a réaménagé.
Notre relation aux gens est beaucoup plus proche que celle des médecins avec leurs patients. Ici, on devient amis, c'est comme une famille. On a une relation très proche avec la communauté.
Sur son fauteuil, tandis qu'il se fait couper les cheveux, Ronald et Shield approuvent.
Je fais plus confiance à Fred qu'à n'importe qui. Ça fait 20 ans que je le connais.
Et vous avez expérimenté ce programme de santé chez lui ?
Oui, une fois j'ai vu ce type de l'université du Maryland, il m'a fait des recommandations, il m'a donné des médicaments, il m'a indiqué un régime pour contrôler mon diabète et ma pression sanguine.
Et vous ne l'auriez pas fait si vous ne l'aviez pas rencontré chez le coiffeur.
Exactement, je serais un agneau perdu dans les bois.
Parce que vous n'allez pas chez le médecin ?
Non, je ne fais pas confiance à beaucoup de docteurs, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Mais celui que j'ai rencontré ici, je lui fais confiance et il a changé ma santé du tout au tout. Je suis comme un homme neuf.
L'expérience a provisoirement été interrompue pendant la pandémie, mais Fred continue de prendre son rôle très à cœur.
Beaucoup de gens pensaient que le Covid était une conspiration. Ils ne croyaient pas, ils disaient que ce n'était pas vrai, que cela ne tuait pas les hommes noirs. Mais moi, je peux le dire que c'est réel, que j'ai des amis qui ont perdu leur mère, leur père. Un de mes proches a pleuré sur mon épaule la mort de son père tué par le Covid. Donc quand les gens entendent ce genre d'histoire, ils réalisent que c'est vraiment contagieux. Ils portent le masque quand ils sortent, ils se lavent les mains, ils emportent un gel hydroalcoolique et ils acceptent le fait que le danger est là, même si beaucoup de gens ne croient pas ce qu'ils voient. Et comme c'est une maladie invisible, pas mal de gens pensent que c'est peut-être une invention, mais moi je suis là pour leur dire que c'est un danger réel et qu'ils doivent se protéger.
8h30 du matin devant une église baptiste du district 2 du comté de Prince George. Une longue file de voitures, j'en ai compté plus de 150, sont déjà garées en ligne pour la distribution de nourriture qui a lieu ici. Elle doit commencer à 9h30, mais du fait de l'affluence, elle débutera sans doute plus tôt.
Hello, ma'am.
Yes, ma'am.
À quelle heure vous êtes arrivée ici?
Me, 7 o'clock.
7 heures. J'ai une famille et personne ne travaille. On n'a pas de revenus, rien. Pas de boulot, pas de ressources. Cela me tient réveillé toute la nuit. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Tout est entre les mains de Dieu.
So I can get started. Colleen, can I bring cars?
En plus d'être frappé de plein fouet par la maladie, la communauté afro-américaine du comté de Prince George subit la crise économique. Sherry Everhead supervise la distribution de nourriture.
Avec des gens qui font la queue dès 7 heures du matin, on a dû commencer plus tôt. On ne peut pas les laisser attendre sous le soleil et bloquer la circulation. Il y a de plus en plus de monde chaque semaine. Ce sont des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ne peuvent pas faire leurs courses parce qu'ils ont des malades chez eux. Ils viennent de plus en plus tôt chaque semaine. On fait ça depuis la mi-mai et je ne pense pas que ça va s'améliorer, surtout si le taux d'infection recommence à augmenter. Cela inquiète tout le monde.
Dans un immense entrepôt dépendant de son église, le pasteur Cynthia Terry nous montre des piles de nourriture, de couches, de produits de première nécessité. Et elle confirme, la crise suscitée par le coronavirus ne fait que s'aggraver.
En février, on a distribué 14 009 colis. En mars, on a fermé parce que le Covid a obligé tout le monde à rester chez soi. Et quand on a rouvert, cela a augmenté de manière exponentielle. En avril, on a atteint 33 600 personnes. Vous voyez que c'est une augmentation significative par rapport à ce qu'on distribue d'habitude. Ensuite, en mai, on a grimpé à 36 009 personnes et ça n'a pas baissé depuis. On voit beaucoup de gens qui travaillaient dans la restauration dont les heures de travail ont été réduites ou qui ne travaillent plus. Mais il y a eu des pertes d'emplois dans les instituts de crédit, dans la grande distribution. Il y a ces gens qui travaillaient dans les galeries marchandes. On a fait une distribution de nourriture jeudi dernier et les gens avaient les larmes aux yeux parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils auraient à devoir solliciter notre aide pendant si longtemps. Il y a tant de gens qui ne perçoivent pas d'allocation chômage. J'ai parlé à plusieurs personnes qui sont maintenant à la rue. Les choses vont mal.
Things are bad.
On va rencontrer Gregory Allen. Il est afro-américain. Il est diplômé en biologie. Il travaillait comme barman et a été licencié à cause du coronavirus.
Très engagé à gauche, il milite pour plus de justice sociale dans sa communauté.
Hey, would you like to come in?
Yeah, we can do that. Thank you for receiving me. 50%
des Afro-Américains ont perdu leur travail. Beaucoup de commerces tenus par des Noirs n'ont pas obtenu les prêts accordés par le gouvernement dans le cadre de cette crise pour rester à flot. Et la vaste majorité des gens qui tombent malades et meurent du fait de ce virus sont des Noirs. Si vous regardez les gens qui travaillent à la poste, ce sont en majorité des Noirs. Les personnels des maisons de retraite sont noirs. Ma mère travaille à la poste et a été exposée au virus. Ma tante travaille dans un hôpital et n'avait pas le matériel de protection suffisant au début. Donc, vous savez, les noirs travaillent dans des secteurs qui sont plus exposés à la maladie. Ils sont placés en danger et c'est vraiment frustrant. Ma copine a perdu quelqu'un de sa famille aujourd'hui à cause du Covid. C'est très triste et très désarmant.
Mais dans son jardin, le professeur Stephen B. Thomas voit matière à espérer.
Cette croyance que les Noirs sont une espèce différente a duré de nombreuses décennies et se voit encore aujourd'hui quand une championne de tennis comme Serena Williams, après son accouchement, dit au médecin qu'elle a des symptômes et qu'il ne l'écoute pas. Elle a failli y passer. Et son histoire, parce qu'elle les célèbre, a exposé ces stéréotypes. Qu'ils soient conscients ou inconscients, peu importe, ils ont encore un impact. Et cela signifie qu'ici, aux États-Unis, nous allons devoir affronter la question de la race. Les Noirs se lèvent et disent « cela suffit ». Et qui aurait pu imaginer que cette étincelle serait allumée par la mort de George Floyd dans le Minnesota ? Mais c'est comme un feu de forêt qui a pris sur l'herbe sèche du racisme. Et maintenant que cette étincelle a allumé la flamme, nous savons que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je peux vous le garantir. Vous avez vu tous ces Blancs qui marchent à côté des Noirs ? J'ai vu un jeune Blanc porter une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Black Power » avec un point fermé. C'est incroyable. On passe un cap. Je pense que c'est une bonne chose. Le rêve américain doit être un rêve pour tout le monde. Il ne peut pas être réservé à quelques-uns.
The American dream is going to be a dream and has to be for everybody. It can't just be for some people.
Coronavirus, les Afro-Américains en première ligne, un grand reportage d'Anne Corpet, réalisation Eva Piedel.